Mon thème, c'est évidemment l'exil, sidération et établissement du soi. L'exil, lorsqu'il est vécu dans l'enfance, à 10 ans, est à l'origine d'un saut irrévocable et constitutif. Il produit un effet de sidération définitif qui délite, dépaisse la trame intime du soi. Cette sidération se manifeste par la précision des images et la fixation concomitante de leur durée. C'est la mise en réserve d'un film dont le déroulé est toujours le même, inentamable, comme l'exil lui-même. La caractéristique physique de l'exil est la perte. On a géographiquement, derrière soi, ce qu'on devrait avoir autour de soi. L'exil est le moment où la présence bascule en absence. En un seul instant, si court qu'il semble s'endurer, c'est une ligne d'une netteté extrême et que rien ne viendra franchir, et qui sépare non seulement un avant d'un après, mais tranche, sépare à tout jamais deux aperceptions de soi qui pourtant ne forment qu'une seule et même continuité. L'exil ronge le dedans de l'âme. Il fait disparaître tous les lieux familiers, les odeurs, les voix. Il force l'âme à se réorienter. Il ne quitte jamais l'exilé qui le porte en lui à mi-poitrine. L'étrange de l'exil, c'est la précision de cette ligne médiane de reconnaissance, inaugurée entre deux configurations géographiques, irréconciliables et pourtant à jamais fondues l'une à l'autre de façon indissoluble. Ce premier horizon, admettons qu'il soit de sonorité et de coloration germanique, pour ne pas dire allemande, et de très puissante imprégnation, bascule soudain en son quasi-inverse rassurant français. Il n'y bascule pas par plaisir, ni par hasard, mais par nécessité, par contrainte, par survie. Il s'est mis en place tout un horizon sonore et visuel d'abord, qui marque à jamais la personnalité. Et ici, on échappe pour commencer largement à la littérature, toujours par-delà ce retranchement initial, dont elle peut difficilement rendre compte. On ne peut pas avoir recours ici à Proust, dont se différencierait justement Carl Philipp Moritz et son petit Anton Reiser, autre émigré de l'intérieur. Rien de semblable tout en commun. Ni pour l'un, ni pour l'autre, cependant, il n'y eut exil, si ce n'est de luxe pour l'un et de pauvreté pour l'autre. L'exil est en effet politique au premier chef. Il est expulsion, menace de mort. Il marque à tout jamais qui en fut frappé pendant l'enfance, à la fois dans sa perception sensorielle de lui-même et dans sa constitution morale. Coupable d'être né, menacé d'effacement, il est à la fois illégitime et au comble de la conscience, comme si l'exil impliquait le défi d'exister. Dès lors, l'exilé est dans un premier temps astreint à une géographie indéfinie, sans lieu, mais qui le borde de tous les côtés, sans pouvoir y trouver de point fixe. L'exilé est voué à l'illégitimité, même lorsqu'elle est recouverte par une nouvelle identité légitime. Au fond de lui-même, il se sait interdit. Non seulement l'exil fait apparaître l'exilé à lui-même, dans la violence de la réduction, mais aussi en tant qu'identité coupable, puisque c'est elle qui est la cause de l'exil. L'objet d'identité proscrit est nettement identifiable, soit cet objet est d'origine, identité d'origine juive, soit il choisit l'exil politique. L'exilé est donc assigné à une désignation purement extérieure. Ce sont les autres qui l'exilent, ce n'est pas lui. Il ne porte rien en lui de l'exil qu'on ne l'y ait mis. Au départ, l'exilé n'en est pas un. Ce n'est jamais qu'une condition à lui imposée, comme un mort qui lui traverserait la bouche, qu'il aurait sans cesse au fond de lui-même, tel un cheval. Il l'a en travers de la bouche, en arrière, fond, vaguement présent, mais jamais oublié. L'exil devient comme une dimension corporelle interne, une coloration qui imprègne toute chose et confère à l'exilé une infamiliarité toute particulière. En principe, il ne devrait jamais se laisser avoir, jamais faire foi. Il sait qu'il n'y a rien à croire, que toute appartenance contient une menace. Ce n'est pas tant l'interruption de la géographie première qui caractérise l'exil, mais qu'on la sache irréversible et d'utile y avoir ultérieurement retour. Le départ ne peut plus être aboli. Il est sans retour. L'exil peut très bien n'être que provisoire, mais il n'est alors que par accident. Par essence, il est irréversible et prononcé comme tel. Dès lors, il lui faut à tout prix éviter ce qu'on appelle en allemand le Heimweh, cette maladie dont tant d'enfants pensionnaires sont morts ou qui ne s'en sont jamais remis. Même s'il y a ensuite, et peut-être pour longtemps, fixité et sûreté, celles-ci seront à jamais précédées par le voyage, encore que ce terme soit parfaitement impropre, puisqu'il s'agit en l'occurrence davantage de fuite coupable que de voyage. Ainsi, le train de l'exil, qui va de Hambourg à Florence d'abord, est encore présent avec ses banquettes et son odeur. L'exilé est cerné de tous côtés par une double localisation. D'une part, par les lieux nouveaux, l'entourage nouveau, la langue nouvelle, d'autre part en absence, par les lieux interdits ou refusés, dont il a été expulsé et où s'est établi, comme déjà dit, sa première enveloppe sensorielle, couleur, forme, voix, odeur, sonorités et couleurs, dans le jardin premier, avec ses distributions de lumière, lieu de l'expérience première de l'emplacement du soi. C'est un ensemble de sensations qui établissent les contours du soi. Le soi se révèle par lui-même dans le jardin, par extension et élaboration, des étendues et des consistances perceptibles. Peu à peu se fait ainsi l'exploration des environs immédiats, véritable aventure quotidienne par laquelle se fait l'apprentissage du monde et qui est désormais interdite. C'est le prolongement du moi-peau, tel peut-être que l'entendait Didier Anzieux. Ce cadre initial, favorisé ou non, est fondamentalement lié à l'empfinden, le ressenti de soi-même. En d'autres termes, on se constitue en soi-même, charnellement, par l'attachement à tous les éléments reçus, plus ou moins liés à la mère, si bien que dans l'enfance, l'exil risque bien d'être une sorte de petite mort, cette fois au sens non figuré du terme. Les exilés ont tous un os de sèche, collé au milieu de la poitrine. L'exil abolit les repères initiaux et provoque dans un premier temps une sorte de désarroi, de désemparement. Mot me semble-t-il bien plus parlant que cette fameuse Hilflosigkeit qui sonne si étrangement en français. L'exil fait naître un affolement géographique, comme une aiguille de boussole qui aurait perdu son nord. Du coup, l'exil se fait ses images, celles du train, comme déjà dit. Par exemple, elle est inséparable d'un premier trajet vers la gare de départ ultime. Ce trajet se trouve photographiquement fixé. Ce premier trajet, en compagnie des parents qu'on va quitter, et on est comme gêné. C'est tout juste si on n'a pas honte pour eux. Ce trajet reste à jamais gravé dans la mémoire avec curieusement tous les détails visuels en toute précision et sa durée exacte, 27 minutes. 50 ou 75 ans plus tard, l'image en est exactement conservée et peut être convoquée sans la moindre modification telle qu'elle s'est imposée par l'introduction du tout autre inconnu. L'exilé emporte son voyage avec lui. L'exil est le seul point fil fixe de l'exil. Il ne sort pas de son corps malgré le trajet. Le voyage d'exil établit cette immobilité étrange, soudain découverte. Je suis dans le train qui roule. J'étais en tel endroit, il n'y serait plus. Alors que l'endroit continue à exister comme si on y était. Il ne me reste que moi comme référence. Je ne verrai plus la bicyclette appuyée contre la véranda. Je n'ai plus besoin de vous croire, puisque vous me privez de mon lieu essentiel. Il se produit une sorte de cristallisation qui vitrifie une fois pour toutes l'imagerie antérieure à l'exil. Et celle-ci devient une sorte de fonds de commerce existentiel. Tout ce qui sera postérieur à l'exil portera celui-ci en filigrane. L'exil repose ainsi sur des points fixes, liés à lui, et autour desquels se réorganise la géographie intérieure, dont le matériau est tout à la fois la culpabilité de naissance et l'absolu vouloir vivre, mais localisé, vouloir vivre qui exige l'abolition du Heimweh. L'exil est assez peu compatible avec le suicide, d'ailleurs à certains âges plutôt impossible. Tout le dispositif sensoriel, pour faire savant, est à réorganiser du tout au tout, jusqu'au commutateur électrique qui se manie autrement, jusqu'aux pinces à vélo qui changent, jusqu'aux lavabos qui ne sont pas les mêmes. Tout est à refaire, et définitivement, jusque dans les moindres détails, sans parler de la privation de tout un univers de récits. On objectera qu'il en est ainsi pour tout voyageur, sauf que le voyageur revient. Il part en esprit de retour, alors que pour l'exilé, il n'y a justement pas de retour. C'est même cette privation de retour qui en est l'une des caractéristiques essentielles. De ce fait, il est de ceux qui emportent leur patrie à la semelle de leurs souliers. Il y a dans l'exil cette redisposition géographique fondamentale. Il y a changement des points cardinaux réorientés selon un savoir géographique nouveau. L'exil conduit nécessairement à une certaine réserve quant à l'ensemble de ce que l'on enseigne à l'exil, lui enseigne son entourage à l'exilé. L'exil est contraint à la vigilance perpétuelle. Tout ce qui lui est enseigné ne rencontre jamais un terrain vierge. Tout nouveau savoir acquis tombe sur une plaque lisse où rien ne s'enfonce, mais laisse toujours des marques. On a l'exil au travers de soi, à l'horizontale, comme un plateau, un mort, comme déjà dit. C'est toujours au bout du paysage intérieur. Le lieu d'origine contient toutes les images de maisons, de jardins, et elles surgissent toujours inattendues, comme s'il s'agissait d'une réserve d'Indiens. Pour l'exilé, tout est à refaire, tout est à reconstruire. Les références spatiales s'effondrent. Telle lisière de forêt, tel mousin à vent, tel pont de bois qui servent à la mise en place de la rêverie ou la simple orientation quotidienne sont dès lors abolis pour toujours. Il faut une véritable réinvention des repères perceptifs. Les images postérieures à l'exil sont situées d'un autre côté dans la tête que les images originelles. Elles sont issues d'un autre point de l'espace. À l'exilé est accordée d'ailleurs la chance du regard nouveau, toujours en éveil. Il cherche presque d'instinct les lieux sûrs, et comme le gibier, il repère tout de suite les planques, tout comme un bon interne repère dès l'entrée les gogues et le ref. Il s'agit de la reconstruction des paysages intérieurs, du décor de la rêverie de jour, qui doit refaire ses éclairages, ses angles de vue, redisposer droite et gauche, selon les repères essentiels. Les images emportées en exil sont généralement des images de Heimat, comme le dit ce mot allemand, qui une fois de plus l'allemand a des ressources hélas illimitées dans tous les domaines. Et Heim, c'est le foyer, Heimat, c'est l'environnement natal. C'est très bien que le français n'ait pas de mots pour ça, hein. C'est peut-être une manière de discrétion métaphysique. Et Heimweh, c'est encore une fois ce mot essentiel qui exprime la souffrance des enfants éloignés de leurs parents. Là, il est curieux que le français n'ait pas de mots. Le cafard, c'est pas la même chose. Les images surgissent, par exemple, d'un quelque part, on l'a déjà dit, situé dans la gauche du cerveau. Elles viennent toujours d'un même côté de la tête, c'est ça qui est très curieux. Légèrement en dessous de cette ligne de niveau, d'où naissent les images intérieures qui surgissent de façon généralement inattendue, mais toujours provoquées par quelques ressemblances fortuites. On ne le remarque qu'après que les associations d'images aient eu lieu. Celles qui proviennent de la langue d'accueil viennent de plus haut et de droite. L'espace intérieur est fait de dimensions très précises et qui se révèlent selon un ordonnancement disposé au fil des circonstances et des propos entendus et que l'exil brise et rétablit à la fois. Il faut cette occasion rappeler, c'est par hasard que j'ai lu ça, le magnifique livre de Pierre Kaufmann, L'expérience émotionnelle de l'espace, où c'est le problème de la mise en place du soi et des émotions à partir d'un lieu est posé dans toutes ses dimensions. Mais l'exil est aussi avant tout une question linguistique. Il comporte une nouvelle entrée en langue qui va au-delà d'un simple apprentissage. L'enfant tombe dans la langue au comble d'une détresse triomphale, car il est finalement le grand chanceux de l'affaire. Pour peu qu'on l'ait tiré d'affaire, car à moins d'être à Appelfeld, il y a bien peu de chances qu'il s'en tire par lui-même. Il le doit toujours à quelqu'un ou à quelques-uns du pays refuge, si bien qu'à ce qu'on nomme l'apprentissage de la langue s'ajoute une impérieuse obligation morale. Si au départ, dans l'enfance, toute langue est innocente, la langue d'accueil, elle, en plus, est définitivement marquée par le refuge, par le salut, par le secours au comble du danger. Cette langue est à jamais marquée par le risque pris en tout naturel pour le secours d'un adolescent goinfre, affamé, menteur et inhérétique, par de parfaits inconnus au nombre de 5, pour qui sauver un être humain allait de soi, et charité devient ici justice. C'est pourquoi le français devint maternel, avec toutes les images importante et définitive des manuels d'histoire de la République, d'où aussi cet essai intitulé « Une langue pour l'abri ». C'est peut-être ridicule, mais pour moi, la vision de la France est celle des livres d'histoire, le pays d'accueil, le pays des travaux d'Hercule, de la civilisation. Je ne peux pas m'en défaire. Dès lors, il ne saurait y avoir neutralité linguistique. Chacune des deux langues, si rigoureusement différentes l'une de l'autre, est accompagné d'un fondement inconscient, soit de familiarité inquiète qu'on se plaît tant à qualifier d'unheimlich, peut-être n'en mesure-t-on pas les menaces d'enlèvement et d'extermination que ce mot terrible contient, il suffit de lire les contes de Grimm pour s'en apercevoir. Et l'autre, la langue seconde, on met des mois à s'apercevoir qu'on la comprenait presque d'emblée, mais sans comprendre qu'on la comprenait, car un enfant ne comprend pas comme un adulte. Elle vient spontanément, cette langue, d'elle-même. On la parle sans s'entendre soi-même. On ne sait pas qu'on la parle. Comme si un effet de sidération seconde avait rendu le langage évident au point d'en faire une fonction. Aussi l'exilé ne peut-il en même temps plus vraiment prendre la langue au sérieux. Elle dit de lui aussi bien ce qui n'est pas, l'une le condamne, l'autre le sauve. Bien que les langues n'aient rien à voir là-dedans, il n'en reste pas moins que l'opération linguistique fut inversée. Ainsi, ce n'est un double exil linguistique. De la langue allemande, la langue est interdite, il faut la cacher, elle est dangereuse. Le pays d'accueil est vaincu par la langue de l'envahisseur qui est aussi la langue de l'exilé. Il faut la cacher sous la langue protectrice. Et d'autre part, cette même langue est souillée à jamais par la langue du Troisième Reich. La langue allemande était ainsi exilée à l'intérieur de l'exilé. L'exilé a la chance d'un abord privilégié de la langue seconde. Il ne l'apprend pas, il tombe dedans, comme je l'ai déjà dit. Elle lui vient plus qu'il ne la cherche. Et c'est par là qu'il compense la perte première. L'exil l'enrichit plus que ne l'aurait fait son pays d'origine. Il y aurait couru le risque de l'enfermement dans le tout près des idées partagées et des grandes appartenances collectives aux somptueuses mises à mort par grosses entières. L'exilé est aussi un privilégié, comme il y en a peu. Rejeté de nature, il peut aussi bien à son tour rejeter, subvertir les articles de foi de toute nature ou bien les faire sien. La désobéissance en toute conscience lui est évidente. Il ne peut se retenir de se demander à toute heure si c'est du lard ou du cochon. C'est bien pourquoi il est malvenu dans les grandes organisations collectives où tout le monde pense en rond et met sa burqa. L'exilé est toujours soupçonnable, toujours suspect, ne fût-ce que par le regard à la fois circonspect et attentif, qu'il est bien obligé de porter sur les choses et les gens, puisqu'il faut se familiariser avec eux. L'exil affine les sens. L'exilé est comme les chiens. Il renifle et il repère. Il flaire immédiatement ces dérives qui font naître les exils. C'est pourquoi il est craint en politique. L'exilé est toujours sur ses gardes. L'exilé a toute chance de devenir un mauvais esprit, en quoi il a été servi par la littérature française du XVIIe siècle. On le repère tout de suite, comme celui à qui on ne peut faire accroire toutes les salades verbales qu'on lui sert. L'exilé, c'est le sceptique dans la salle, celui qui compromet l'unanimité de la communauté, toute communauté qui bêle sur ordre et par entendu, toute communauté fermée et revendiquant son identité par fermeture, est nécessairement, qu'elle le veuille ou non, productrice d'exilés, de proscription et d'exclusion, et sinon même de mise à mort. L'exilé, sans le vouloir, porteur d'un savoir d'autre chose, qui est quelque part toujours au fond de tous les savoirs acquis. On lui a interdit le savoir que j'appellerais le savoir de souche, le savoir naturel, celui qui glisse tout seul, celui qu'on a de nature, comme les arbres ont un tronc. Le savoir d'appartenance, ce savoir de découverte quotidienne qui font aller surtout vers l'âge de 10 ans de surprise en surprise avec l'élargissement de l'horizon au moindre décalement. Ce savoir d'appartenance avec chaque jour des expressions nouvelles, des mots nouveaux, les sens nouveaux des mots. Ce savoir d'appartenance qui fait tous deviner d'avance. Ce savoir d'appartenance est justement celui qu'on refuse à l'exilé, désormais exclu de la participation à sa culture d'origine, je dirais même à sa civilisation d'origine. Son savoir, à lui, l'exilé, est de ce fait double. Il est aussi le citoyen d'élection, car il y a un devoir moral à l'égard du pays d'accueil. Il n'est pas né natif, comme on disait jadis. Par définition, il n'est plus dans l'appartenance, mais dans le choix qui lui est imposé, presque. Qu'il soit consenti ou non, il n'est plus soumis aux obligations de pensée et il est le seul à en repérer les ligaments de base qu'il peut d'autant plus facilement accepter ou récuser qu'il n'est lié que par la légitimité qu'il a choisie. Il est donc parfaitement républicain. L'exil est le résultat, hélas, d'une unanimité qui s'entend contre le même objet. La communauté allemande de jadis, je ne parle pas de celle d'aujourd'hui, d'ailleurs il y a heureusement plus de communauté allemande, fut jadis presque prise dans l'infantile, d'où sa puissance jadis expulsive et son incapacité à l'altérité. Plus une communauté expulse, plus elle est infantilement inapte à l'affranchissement. On le voit bien dans les communautés fondamentalistes contemporaines, et leur malédiction sexuelle. Une communauté, hélas, digne de ce nom, se définit par ses inimitiés, par ses désirs souterrains de mise à mort collective, symbolisés dans un premier temps par l'expulsion de l'exilé, première étape du stade sacrificiel. L'exil précède ou conjure symboliquement la mise à mort du bouc émissaire, comme l'a si bien décrit et montré René Girard dans plusieurs livres magnifiques, notamment les choses cachées depuis la fondation du monde. Il est facile et tentant de confondre l'exil avec l'émigration. Émigrer, comme nous l'apprennent aussi bien le Littré que le Robert, je cite, c'est quitter son pays pour s'établir dans un autre, momentanément ou définitivement. Tandis que l'exil, c'est l'expulsion de quelqu'un hors de sa patrie avec défense d'y revenir. Et tout est dit. Cette expulsion a frappé la pensée européenne exactement là où elle entravait le déploiement de la mise en condition et le dressage définitif des esprits. Mobilisée, l'Europe l'est aujourd'hui jusqu'au plus intime du langage, désormais asservie, et tout le monde le sait, par les pouvoirs auxquels les peuples consentent, car tout discours réutilisé, répété est largement à l'exil, à l'origine justement de l'exil. Celui qui ne parle pas par cœur, comme tout le monde, est nécessairement suspect et finalement exilé. Car l'exil, comme je l'ai dit, est toujours politique ou religieux, et condamne pour toujours le pouvoir qui exile. L'exil est toujours la preuve d'une faiblesse interne qui condamne le régime qui exile. On n'exile que parce que la présence de certaines idées ou certaines origines sont insupportables au régime ou à la religion en place. Ceci avoue par là leur défaillance morale et leur faiblesse interne dans l'incapacité d'assimiler l'inconvenant. Une grande pensée se nourrit pourtant de ce qu'elle n'est pas. L'exil, depuis Joachim du Bellay, Descartes ou Rousseau, le grand Fugger ou Voltaire parmi tellement d'autres, est une donnée majeure du politique européen, un repère pour déceler la fixité générale des autorités politiques non démocratiques. Les autorités, quand elles prétendent régir les esprits, ne peuvent admettre le doute, car s'il y a doute, et donc exilé, il n'y a pas pouvoir. L'exil est révélateur justement de ce qui sous-tend ainsi une société et un temps. Il y aura mise à mort collective consentie par la communauté, comme ce fut le cas, hélas, pour la communauté allemande de 1938 à 1945. Je prends 1938 en connaissance de cause, puisque c'est le début de l'euthanasie des enfants non-juifs, des enfants allemands, 800 000, en proie au consentement religieux, à la soumission sacrificielle. L'exil peut à cet égard prendre involontairement un aspect prophétique, comme ce fut jadis, je parle ici d'une Allemagne au passé, ce n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui dont je parle. C'est le cas pour Heinrich Heine, qui écrit en 1831 « Dans la cave à bière à Göttingen, je fus naguère forcé d'admirer le soin avec lesquels mes amis vieils allemands, c'est une tendance politique de l'époque, confectionnaient leur liste de proscriptions pour le jour où ils accéderaient au pouvoir. Quiconque descendrait au septième degré d'un Français, d'un Juif ou d'un Slave est condamné à exil. » Ceci est écrit en 1831, l'année où le même Heine était écrit aussi son histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne, où tout, 100 ans d'avance, est exactement annoncé tel que ça se produira, avec cette fameuse phrase « Méfiez-vous, Français, quand le philosophe allemand sortira de sa caverne la hache à la main ». L'Europe consentante a été prête à accepter ces choses-là. Heinrich Heine dut s'exiler d'Allemagne, à la fois du fait de ses origines juives, qui l'empêchaient d'accéder à un poste universitaire, quoiqu'il fût lui aussi de confession protestante, mais surtout à cause de ses articles dans les journaux allemands. Dès 1832, donc 100 ans avant, le nationalisme allemand de l'époque, je parle de l'Allemagne d'autrefois, hein, pas de la République d'aujourd'hui, de l'époque n'avait pour seule inconsistante que la haine de la romanité. Los von Rom, débarrassons-nous de Rome. L'exil était une donnée constitutive pour qui en Allemagne tentait de penser de façon libre, sans se laisser entraîner par les chaînes de soumission. 100 ans plus tard, on le sait, en 1933, se déclencha la phase ultime du suicide de l'Europe. Le nationalisme bio-religieux hitlérien a blessé l'intelligence, peut-être à jamais. Et puisque nous parlons d'exil, la langue allemande, quant à elle, était aussi partie en exil, et à savoir en France. D'abord à Sanary-sur-Mer, où se réfugièrent bien des réfugiés, puis aux États-Unis. Il a été question à plusieurs reprises, ici même, à Cerisy, dans un colloque en 2004, où j'ai présenté la Lingua Terzi Imperi, le livre sur la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer, qui décrit de façon exhaustive la destruction volontaire et irrémédiable, peut-être, de l'allemand par le jargon nazi. Il en fut de nouveau question ici même, en 2006, lors du colloque sur les exils d'écrivains et d'artistes au XXe siècle. Sans tous ces écrivains ou savants et chercheurs exilés, dont l'énumération prendrait des heures, la langue allemande ne serait plus qu'un cadavre qui bouge encore, mais ne l'est pas. Le monde d'hier de Stefan Zweig grand exilé lui-même, en porte témoignage. C'est un livre majeur sur le tragique du XXe siècle. Ainsi, la société allemande, je parle de la société allemande, puisque mon jardin était en Allemagne, et au plus profond de l'Allemagne. Ainsi, la société allemande a-t-elle été détruite jadis par l'exil dans ses fondements mêmes, dont la France a recueilli bien tardivement les spasmes derniers, alors que toute la pensée de langue allemande avait été contente à l'exil. Thomas Mann, Stefan Zweig, Herbert Marcuse, Sigmund Freud, bien qu'autrichien, et tant d'autres. Il ne restait en Europe que les serviteurs plus ou moins avoués du nazisme, compris allègrement pour les déconstructeurs, donc les révélateurs de la pensée en général. C'est bien pourquoi, je reviens à mes moutons, excusez-moi, c'est bien pourquoi le grand exil allemand de 1933-38, ensuite c'est trop tard, est à la fois exemplaire et symbolique, puisqu'il signifie la fuite des esprits devant la brutalité exécutrice et exterminatrice, fondée, c'est ici que mon mouton revient, fondée sur cette vernichtung, cet anéantissement si cher à notre brave Heidegger et à son ami Eugen Fischer, organisateur de la mise à mort des enfants allemands. Car un des effets pervers de l'exil de 38 est non seulement la disparition de la civilisation européenne, mais l'effet de trouble, de confusion qu'il entraîne, qui détruit les données de base si laborieusement acquises au fil de l'histoire. C'est en effet en Europe, et en Europe seule, que se mit en place la raison critique, largement cause d'exil. Spinoza en fut l'un des représentants majeurs. Il faut aujourd'hui surtout relire le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza, qui démontre les redoutables mécanismes de la soumission des esprits au dressage rituel et religieux et politique. Il fut un exilé, exclu d'une tribu figée, paralysé par la tradition et l'appartenance justement. Aujourd'hui, dans une Europe en voie de crétinisation, la pensée redevient dangereuse, menacée qu'elle est par des politiques incultes, tels que ces Orban ou ces Poutine, qui se permettent de donner des avis sur ce qu'ils ignorent. Les langues de l'Europe occidentale ont-elles aussi pris le chemin de l'exil, désormais aux mains soit des sbires des commissions diverses et leur pompeuses incompétences, soit des vendeurs de l'industrie, comme les décrit si bien Zoé Shepard dans ce livre amusant entre tous, absolument débordé. La langue est désormais livrée aux décideurs du genre à inventer la suppression des majuscules ou à inventer les techniciens de surface ou aux pédagogues grands destructeurs du français. Il y a un bon temps que dure l'exil de la langue. Déjà, Éric Hazan l'avait signalé dans son livre « La langue du cinquième République »,« Lingua Quintae Republicae », sur les langues européennes qui sont aujourd'hui soumises aux bureaucrates, aux commerciaux et surtout aux faux savants. Ils avaient déjà, sous forme nazie, frappé à mort l'allemand, qui fut défiguré, ridiculisé, amoindri, et aujourd'hui, cet LTI est remplacé par le Globish. L'Europe d'aujourd'hui entre à nouveau en exil. Serait-ce l'ultime étape de ce suicide qu'elle amorça en 1933?